quotidien avec Christiane Compagna.
Bonjour. Bonjour, messieurs, dames, et bienvenue à cette édition du 10 juillet. Au quotidien, Christiane Compagna avec vous. Je ne sais pas pour vous, moi, c'est ma dernière journée avant de partir en vacances. J'espère que c'est le cas pour plein d'entre vous. Cette journée où on règle, cette semaine avant les vacances, on règle des choses au travail, mais chez nous, on se dit, ah, pas besoin de faire la vaisselle ou le ménage. Je vais avoir le temps. Donc, fourmis au travail et cigales à la maison. Aujourd'hui, on va parler beaucoup quelques articles sur l'environnement, le retour de Jean-Martin Haussan, les nouvelles de Claude Robinson. Nous parlerons bilinguisme du côté du droit d'Ottawa. On parlera aussi encore d'accès aux soins de santé avec Mylène Moisan. En deuxième demi-heure, des sujets très, très variés, autant les inégalités et la santé que la bière, puisque les vacances s'en viennent. On parlera un peu de la Grèce, du Maroc, de la Syrie et aussi de choses aussi variées que RBO et Chopin dans le volet culturel. Alors tout ça en cette édition du 10 juillet au quotidien. Alors, en une de la presse aujourd'hui, l'été au ralenti. Travaux, déviations, congestion, les vacances ne seront pas de tout repos sur la rive sud et au centre-ville de Montréal. Coup d'œil sur les points chauds, nous annonce-t-on. Montréal à ses anneaux, c'était la fête hier à l'occasion de l'inauguration de la Maison olympique canadienne. Nathalie Petrovski dit « Bienvenue en Grèce, Monsieur Lefebvre ». Connaissez-vous votre RBO? Testez vos connaissances avant le premier des deux spectacles du groupe ce soir au Centre Bell. Je l'ai essayé à part la première question. Elles sont toutes ridiculement faciles parce que les choix de réponse sont pas très logiques et pas très RBO. Éric Martel, nouveau PDG d'Hydro-Québec, croissance et transparence promet-il? C'est dans le cahier des affaires. Et des douaniers qui ont du flair, la valeur de la drogue interceptée par les chiens renifleurs dans les aéroports canadiens a explosé l'an dernier. Découvrez la technique de River. River étant un beau chien noir qui détecte la drogue. Alors, la chronique de Vincent Marissal s'intitule « Envers et contre tous, mais envers V-E-R-T ». Fidèle à ses positions sur les questions environnementales, le gouvernement Harper brillait par son absence cette semaine à la réunion du sommet des Amériques sur les changements climatiques tenu à Toronto. C'est peut-être mieux ainsi remarqué. Parce que si Stephen Harper ou sa ministre de l'Environnement, Leona Aglukkaq, s'étaient rendus à la rencontre, ils auraient trouvé le temps long. Très long même. Les représentants des différentes délégations des Amériques faisaient la file pour critiquer le manque de sérieux du Canada dans la lutte contre les changements climatiques. La première salve est venue de l'ex-président mexicain Felipe Calderón, qui a reproché au gouvernement canadien de ne pas en faire assez. Sont venues ensuite les critiques du gouverneur de la Californie, Jerry Brown, qui a déclaré que le Canada, comme grand producteur de pétrole, devait être un leader dans les de la lutte contre les changements climatiques. Puis il a ajouté, cinglant, « Ne croyez pas la propagande des pétrolières et des partis conservateurs ». Al Gore, l'ancien vice-président de Bill Clinton, converti en champion de la lutte contre les changements climatiques, a lui aussi souligné l'urgence d'agir. En principe, les règles primaires de la diplomatie imposent aux visiteurs étrangers une certaine retenue dans leurs critiques envers le pays qui les reçoit. Cette fois, on avait laissé les gants blancs à la maison et on ne s'est pas gêné pour déplorer publiquement la très grande timidité du Canada en matière de protection de l'environnement. Est-ce suffisant pour ébranler Stephen Harper? C'est plus que douteux. Le premier ministre conservateur n'a pas l'habitude de se laisser émouvoir par les critiques des pays étrangers ou même de l'ONU, quitte à froisser nos plus grands alliés, notamment les États-Unis. M. Harper ne se laisse pas démonter davantage par les critiques intérieures, peu importe le sujet d'ailleurs. À Toronto, il s'est pourtant passé quelque chose de très important. Pour la première fois, les trois grandes provinces, l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, se sont ligués dans un front commun informel contre la position du gouvernement Harper en matière de lutte contre les changements climatiques. Les trois provinces sont favorables à un marché du carbone, tout comme la Californie, une solution honnie et même ridiculisée par les conservateurs à Ottawa. Ajoutez l'Alberta, qui sous la gouverne de la première ministre néo-démocrate Rachel Notley veut resserrer les mesures environnementales et vous obtenez une coalition représentant plus de 85 % de la population canadienne favorable à un engagement sérieux et immédiat dans la lutte contre les émissions polluantes. Philippe Couillard et son homologue ontarienne, Kathleen Vine, ont tous deux eu des mots durs envers le gouvernement Harper. En allié électoral, Stephen Harper peut-il ignorer un tel désaveu de ses programmes environnementaux sans risquer de perdre des plumes aux yeux de l'électorat? La réponse, selon Vincent Marissal, est courte et crue. Oui, probablement. Soyons réalistes. Aucun parti ne perd ou ne gagne d'élections sur le thème de l'environnement au Canada. C'est probablement vrai partout ailleurs, à de rares exceptions. C'est malheureux que l'environnement ne passionne pas davantage les électeurs, selon Vincent Marissal. Surtout que le 19 octobre, ceux-ci désigneront celui qui les représentera le mois suivant à la grande conférence sur le climat de Paris, un jalon jugé par les experts de la lutte contre les changements climatiques, aussi important que le fut Kyoto. STM, le lancement du lecteur de la carte Opus, est tourné en dérision sur Twitter. Le nouveau lecteur de carte Opus s'est vite retrouvé sur la sellette sur Twitter, alors que de nombreux gazouilleurs se sont moqués de la nouvelle méthode de recharge de carte Opus adoptée par la Société de transport de Montréal. Le mot-clic « innové comme la STM » a pris d'assaut la twittosphère peu avant 10 heures hier matin. En deux temps trois mouvements, le mot-clic lancé par le chroniqueur Mathieu Charlebois est devenu le roi des tendances. Des tendances Twitter au Canada, pas seulement à Montréal ou au Québec, mais au Canada. Devant la déferlante de tweets, le gestionnaire de communauté de la STM est entré dans la danse, innové comme la STM, en publiant à son tour un tweet. Je peux vous le décrire, je l'ai vu passer, c'était le dessin d'une main qui tenait une plume pour écrire et qui disait « ce sera pas long, nous préparons notre réponse » ou quelque chose du genre. Une fois la blague publiée, la STM a affirmé sur son compte que le projet Opus en ligne n'a pas fini d'évoluer. Le lecteur constitue la première étape du projet. D'autres avenues, dont la technologie NFC, s'ajouteront en cours de route. Les utilisateurs peuvent se procurer le lecteur de carte Opus en ligne au coût de 14,49 taxes en sus, afin de recharger leur carte mensuelle au moyen de leur ordinateur personnel muni d'un port USB et doté de Vista, Windows 7, Windows 8 ou de Mac OS X version 10.7 ou supérieure.
Il a neigé à Port-au-Prince, il pleut encore à Chamonix. On traverse à gué la Garonne, le ciel est plein bleu à Paris. Ma nuit d'hiver est à l'envers, le temps retourne pas dehors. Le monde est en chamaille, gèle au sud, on sue au nord. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. La Seine a repris ses 20 berges, malgré les lourdes giboulées. J'ai du frimas sur les lèvres, c'est que je veille à ses côtés. Mamie, j'ai le cœur à l'envers, le temps ravive le cerfeuil. Je ne veux pas être tout seul quand l'hiver tournera de l'œil. Je rapporte avec mes bagages un goût qui m'était étranger, moitié dompté, moitié sauvage, c'est l'amour de mon potager. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. Si Il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Fais du feu dans la cheminée, je rentre chez moi.
Jean-Pierre Ferland, je reviens chez nous. C'est que hier, dans la journée, Jean-Martin Onsan, on y reviendra, a d'abord tweeté pour annoncer son retour un « Fait du feu dans la cheminée, trois petits points ». Et c'est comme ça que les gens ont déduit qu'il revenait au Québec. En une du Devoir, en ce 10 juillet, protection de la jeunesse, la religion n'excuse pas la négligence. La SQ et la DPJ sévèrement blâmées dans le dossier Lève Tahor. Réduction des GES, Québec finance un fabricant de pipelines. C'est un article d'Alexandre Shields. Je vous en lirai peut-être quelques lignes tout à l'heure. Les Tounes avant de Tounes, questionnaire avec RBO pour leur premier Centre Bell. Cette fois-ci, ce n'est pas à vous qu'on pose des questions, c'est Sylvain Cormier qui a posé des questions à Rock et Belles Oreilles sur leur rapport avec la musique au fil des ans. Il y a aussi Claude Robinson de retour en cours et Joe Blow rencontre Michel, l'homme qui refuse d'être une femme. Aussi politique énergétique, le nouveau PDG d'Hydro-Québec souhaite un dialogue. Au sang s'imposera un devoir de réserve, un article de Marco Fortier. Le leader souverainiste met fin à son exil londonien et revient au Québec. L'étoile montante du mouvement souverainiste Jean-Martin Au sang, qui revient au Québec après un exil de 2 ans à Londres, prévoit d'attendre aux prochaines élections provinciales avant de s'engager à nouveau en politique. Le fondateur du parti Option nationale, ON, considéré comme l'héritier politique de Jacques Parizeau, a trouvé au Québec un emploi dans une organisation publique qui l'obligera à garder un devoir de réserve loin de la politique partisane, indiquent nos sources. L'économiste et ancien député de 45 ans a confirmé jeudi au Devoir ce dont tout le monde se doutait depuis son discours sur la fin des exils aux funérailles de M. Parizeau le mois dernier. Il s'apprête à revenir au Québec. « Je reviens chez nous effectivement et j'en suis très heureux », a-t-il écrit dans un courriel. Jean-Martin Onsan compte annoncer plus tard les raisons de son retour au Québec, près de 2 ans après son départ pour un poste chez Morgan Stanley Capital International à Londres. Le retour de Jean-Martin est une bonne nouvelle pour les souverainistes québécois, a réagi Alexandre Cloutier, qui a terminé en 2e place dans la course à la direction du Parti québécois en mai. « Je faisais partie de ceux qui espéraient qu'il ne quitte pas le parti et qu'il reste avec nous en 2011. Je serai encore plus heureux le jour où il reviendra au Parti québécois », a ajouté Alexandre Cloutier. Le chef péquiste, Pierre-Carl Péladeau, a aussi indiqué au Devoir par le biais d'un porte-parole que Jean-Martin Aussan serait le bienvenu au PQ. Le retour d'Aussan a été accueilli avec joie chez les militants de tous les partis souverainistes, tant sur la scène provinciale qu'au Bloc québécois. En privé, on souligne toutefois le caractère bouillant de l'homme politique qui a pris l'habitude des coups d'éclat et des virages à 180 degrés depuis le début de sa carrière politique en 2008. Il a quitté le PQ avec fracas en juin 2011, moins de 3 ans après le début de son mandat, en reprochant à la chef de l'époque, Pauline Marois, d'avoir mis la souveraineté en veilleuse. Il crée le parti Option nationale en septembre 2011 et obtient 1,89% des voix aux élections générales de 2012. Défait dans sa circonscription de Nicolet Bécancourt, il quitte la vie politique dans les mois suivants, en juin 2013, au grand désespoir des 8000 membres d'Option nationale qui suivaient religieusement leur chef charismatique. Pour ses partisans, le coup de grâce survient en août 2013 quand Jean-Martin Aussan annonce qu'il quitte le Québec pour retourner travailler dans le secteur bancaire à Londres. Son séjour londonien aura été de courte durée, comme tous ses engagements précédents. Aussan voulait que ses 2 garçons, des jumeaux de 5 ans, grandissent au Québec, et il avait lui-même le mal du pays, indiquent ses proches. Le parti fondé par Aussan, Option nationale, l'accueillerait aussi à bras ouverts, mais il n'a donné aucun indice de ses intentions, indique Sol Zanetti, le nouveau chef d'Option nationale. Son retour est une excellente nouvelle pour le Québec et pour la politique en général, dit-il. Le discours de Jean-Martin Aussan aux funérailles de Jacques Parizeau le mois dernier avait marqué les esprits. « S'il est une chose que son départ devrait amener, c'est la fin des exils. de tous les exils, avait déclaré le fondateur d'Option nationale. Qu'il soit géographique ou intellectuel, il faut que nous fassions tous notre part, chacun à notre façon, à la construction de cette société pour laquelle M. Parizeau a tant travaillé. Aussi quelques extraits de cet article de Philippe Orfali sur le dossier Lev Tahar, dont le titre, je vous le rappelle, était « La religion n'excuse pas la négligence ». Une poignée d'organismes gouvernementaux québécois, dont le directeur de la protection de la jeunesse et la sûreté du Québec, se sont vus infliger un sévère blâme par la Commission des droits de la personne dans l'affaire de la communauté sectaire Lev Tahar jeudi. La religion ne peut servir de prétexte à la négligence d'enfants ou à l'inaction d'organismes publics, tranche la Commission dans une décision faisant état d'un cafouillage hors du commun entre les ministères de la Santé et de l'Éducation, le DPJ et la Sûreté du Québec dans le dossier de cette collectivité ultra-orthodoxe comptant près de 140 enfants installés dans les Laurentides. La communauté Lev Tahar, qui signifie « cœur pur », a déjà fait couler beaucoup d'encre. Implantée à Sainte-Agathe-des-Monts jusqu'à l'automne 2013, plusieurs de ses membres avaient subitement fui les Laurentides pour gagner le sud-ouest de l'Ontario au moment où la SQ et le DPJ étaient enfin intervenus à la suite d'allégations de mariage forcé, d'abus de négligence, de problèmes d'hygiène et de non-scolarisation des enfants. Suivant une intervention des gouvernements de l'Ontario et du Québec devant les tribunaux, une partie de la communauté a par la suite pris la fuite vers le Guatemala, où ils se trouveraient toujours. Il y a aussi quelques lignes de l'article, un brin ironique, d'Alexandre Shields. Québec finance un fabricant de pipelines. Le gouvernement Couillard vient d'accorder une subvention de près de 350 000 $ à l'entreprise Canadoy Forge, qui fabrique des portions de pipelines pour TransCanada et dont les dirigeants font la promotion du projet Énergie Est. Les fonds publics ont été octroyés dans le cadre du programme Éco-Performance, mis sur pied afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre du Québec. Selon ce qu'a constaté Le Devoir, l'aide financière offerte à l'entreprise située à Bécancour totalise en fait 347 et 247 $. Elle a été accordée dans le cadre du volet implantation du programme Éco-Performance, géré par le ministère des Ressources naturelles, le MERN. Le programme en question a trois objectifs précis, dont la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la réduction de la consommation de combustibles fossiles. L'enveloppe réservée par le gouvernement sert notamment à répondre à des demandes de financement présentées par des entreprises pour des projets ou des mesures liées à la consommation et à la production de l'énergie, de même qu'à l'amélioration des procédés. Le gouvernement reconnaît lui-même que le programme jouit d'une popularité fulgurante depuis son lancement en 2013. Alors, la caricature de Garnotte porte encore sur la Grèce aujourd'hui. En fait, ce qu'on y voit, c'est un pot de yogourt de marque Tsipras, le yogourt grec 0%. Et là, il y a l'étiquette « meilleur avant ». 0630, ça a été barré. 0613, ça a été barré. 2015-06-011, ça a été barré. 06-22-07, finalement, toutes les dates, la date de péremption du yogourt grec de marque Tsipras varie et est remis toujours à plus tard. See the sleep, the rest upon the quiet street we're standing on. Is it time to go away? Try again some other day. 'Cause these are words we use to say goodbye. These are words you use to say goodbye. Thank you.
bones crack, curtains drawn on my back, and she is gone somewhere else. I do not know, time will tell, and I will go. These are
Beck qui nous faisait ainsi planer. Droit d'auteur, Claude Robinson tente de récupérer son argent jusqu'en France. Un texte de Sarah R. Champagne dans Le Devoir. Après 19 ans de procédure judiciaire, Claude Robinson connaît les 33 000 pages de son dossier par cœur. Et il doit à nouveau se servir de sa mémoire éléphantesque. Malgré un jugement de la Cour suprême en sa faveur qui date de 2013, le dessinateur québécois ne parvient pas à obtenir paiement des sommes qui lui sont dues. Le jugement nous donne raison, mais c'est comme si on m'avait dit « Débrouille-toi maintenant, mon garçon », critique M. Robinson. Il est à Paris pour une audience du tribunal de commerce qui lui annoncera vraisemblablement vendredi que la compagnie Moonscoop, qui a absorbé France Animation, est insolvable. Cette dernière se trouve en effet sous procédure de redressement judiciaire, l'équivalent de se placer sous la protection de la loi sur la faillite au Québec, et ce, sans qu'elle en ait avisé les juges de la Cour suprême, qui étaient alors en délibération. Il a également entamé une procédure pour faire exécuter sur le territoire français le jugement contre Christophe Izard. C'est la difficulté de rendre effectif le jugement de la Cour suprême qui prolonge cette saga judiciaire. Cette Cour a refusé de considérer les plagiaires comme solidairement responsables. Il serait alors revenu au plus solvable du groupe de payer la somme et de s'entendre ensuite avec les autres pour se faire rembourser. À défaut de cette précision, M. Robinson est à la poursuite de chacun d'entre eux, c'est-à-dire Cynar et ses propriétaires, ainsi que plusieurs autres firmes dont France Animation, fusionnée dans Moonscoop, et Christophe Izard. Le bas blesse également quant au refus de la Cour d'exiger des parties étrangères qu'elles déposent des sommes en garantie avant le procès, telles que l'avait recommandé la Cour d'appel du Québec. Ces sommes auraient pu être utilisées justement pour offrir réparation aux dessinateurs. La Cour suprême a négligé un aspect très important sous prétexte que ce dépôt en garantie pourrait nuire à l'accès à la justice. « Ils se sont foutus de moi », dit celui qui ne croit pas voir cet argent un jour. L'injustice financière reste entière. À l'autre bout du téléphone, on l'entend fumer une cigarette sur le balcon de son hôtel de Paris. « C'est parfaitement déshonorant », soupire-t-il. Les étrangers ont abusé du système de justice pendant 19 ans. Ils ont reconnu sa juridiction sur l'affaire et une fois que c'est le temps de payer, ils se réfugient dans leur territoire. Il fait référence à Christophe Izard, signataire de l'œuvre plagiaire, un front selon ses mots, un homme décoré de la Légion d'honneur et à l'origine de Casimir, une série à succès pour enfants. Claude Robinson a retenu les services d'Emmanuelle Lévy, une avocate française spécialisée en propriété intellectuelle, pour tenter de faire respecter le jugement canadien sur le territoire de la France. Il veut aussi s'assurer que les citoyens français connaissent l'autre facette obscure de ce monsieur adulé. Je n'ai pas eu affaire à des petits bandits, j'ai eu affaire à de grands bandits à cravate et en jupon, comme l'a dit le juge Claude Auclair de la Cour supérieure, dénonce M. Robinson. Même s'il peine à obtenir réparation, il tient à préciser que les sommes engagées jusqu'à maintenant pour ses avocats ont été entièrement réglées. « Je suis un homme d'honneur, moi », dit-il. L'idée de s'inspirer de l'œuvre de Daniel Defoe avait germé dans l'esprit du dessinateur dès 1982. Son œuvre est enregistrée au Bureau du droit d'auteur dès 1985 et il la présente à des producteurs de dessins animés, notamment au concepteur Christophe Izard en 1987. Sans que son projet ait débouché, il découvre au petit écran quelques années plus tard le premier épisode de Robinson Sucroé. Ses démarches judiciaires débutent aussitôt pour prouver que son œuvre a été plagiée. Je viens de trouver dans ma pile ici une petite manchette de la presse que je ne vous avais pas lue tout à l'heure. Sommet des Amériques sur le climat. La lutte contre les changements climatiques aidera l'économie mondiale, croit Al Gore. L'ancien vice-président américain Al Gore soutient que la lutte contre les changements climatiques galvanisera l'économie mondiale en dépit des craintes manifestées par certains opposants. Dans une allocution au ton très optimiste hier au sommet des Amériques sur le climat à Toronto, M. Gore a soutenu que les entreprises seront sur la ligne de front dans la lutte contre les changements climatiques. La conférence de 2 jours à Toronto met l'accent sur le rôle que les gouvernements infranationaux, provinces ou États, peuvent jouer dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Avec Christiane Campagna.
Rebonjour, messieurs, dames. Toujours Christiane Campagna avec vous, en effet, en ce vendredi 10 juillet. J'en suis maintenant à la une du Journal de Montréal qui revient sur le drame qui s'est déroulé à Marieville. Le survivant se confie au journal. Il me haïssait la face, visé directement par le tireur de Marieville. Et journée faste pour le sport, Montréal, ville olympique, et notre critique a craqué pour les mignons. Ce sont ces petits personnages jaunes avec un œil qui sont l'objet d'un film pour enfants très populaire ces jours-ci. Je vous lis tout de suite la chronique de Gilles Proulx qui s'intitule « Faire mourir un homme ». À ce que je sache, nulle part sur Terre, un hôpital n'annonce à un patient qu'il est atteint d'une maladie grave en lui envoyant une lettre. En passant, monsieur, vous avez un cancer de stade 4. Pardon, excusez-moi. En passant, madame, vous serez peu à peu paralysée totalement. On convoque la personne pour lui apprendre la mauvaise nouvelle face à face, le plus humainement possible. Eh bien, il y a peu de temps, un homme, Joseph Henley, camionneur agricole de 61 ans pour la ferme Tremblay de Saint-Sulpice dans Lanaudière, a perdu son emploi après une carrière de plus de 30 ans. Une simple lettre de la SAAC lui a appris la nouvelle. En passant, M. Henley, vous ne pourrez plus gagner votre vie après le 9 juillet prochain. C'est que, dit-on, notre camionneur constituerait un danger en raison de son âge et de son régulateur cardiaque. Pourtant, le cardiologue de M. Henley, le docteur Costi de l'Hôtel-Dieu, assure qu'il est en pleine forme, en plus d'être doté d'une force herculéenne. Mais la SAAC fait abstraction de cette réalité. elle applique des barèmes à la manière d'un automate. Passé tel âge, avec un cardio-régulateur, perte automatique du permis. Point à la ligne. Si c'est injuste, ça ne change rien. Comment M. Henley va-t-il gagner sa vie dorénavant? Entreprendre une nouvelle carrière à 61 ans, ce n'est pas évident. Chômage? Réaffectation professionnelle? Bien-être social? Devenir quêteux dans les rues du Mercader? La SAAC s'en moque comme de l'an 40. Ça s'appelle démolir quelqu'un avec une lettre robotisée, probablement provenant d'un rond de cuir qui a appuyé sur un bouton après avoir rempli un formulaire. Pas grave, M. Henley n'est qu'un numéro. Combatif, M. Henley, même sans syndicat ou fortune pour payer un avocat, n'entend pas rester les bras croisés. L'énergie que le gouvernement l'empêche de dépenser pour se rendre utile à la société, il compte la dépenser pour recouvrer son droit de travailler tant et aussi longtemps que son cardiologue certifiera sa bonne santé. M. Henley me faisait remarquer que n'importe quel individu fragile pourrait se tirer une balle dans la tête en recevant une lettre robotisée de ce genre. Au fond, il n'exagère pas. « La meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à ne rien faire », disait Félix Leclerc. José Legault revient à son tour sur l'affaire des taxis, dans un texte intitulé « Une industrie dysfonctionnelle ». Urbaine invétérée et sans voiture, le taxi est un de mes principaux modes de transport depuis longtemps. Je peux donc témoigner aisément de son déclin. Saleté, odeur désagréable, monter dans un taxi sans purel est un sport dangereux, dit-elle. La climatisation est souvent absente ou détraquée. Scotchés à leur portable, de plus en plus de chauffeurs ont une tenue déglinguée et l'impolitesse facile. Les clients réguliers savent qu'il existe encore des taxis propres ou des chauffeurs courtois. Le problème est qu'ils sont de plus en plus l'exception à la règle. La vitrine qu'offre cette industrie de la métropole québécoise est une honte. Inutile de chercher ailleurs la clé du succès d'Uber X. Au fil des ans, la complaisance des autorités politiques, l'inutilité béate du bureau du taxi et la déresponsabilisation généralisée au sein même de l'industrie ont pavé la voie à cet état lamentable des choses. Le fait que ce boulot soit exigeant, car il l'est, n'est toutefois pas une excuse. Aucun professionnel n'oserait recevoir ses clients dans un bureau aussi sale que le taxi montréalais moyen. Mercredi, le ministre des Transports, Robert Poitiers, rencontrait divers joueurs du milieu pour les enjoindre à se moderniser. L'avenir dira si ce réveil poussé in extremis par la concurrence d'autres formes de transport urbain aura lieu ou non. Remettre cette industrie dysfonctionnelle sur pied est une nécessité, non seulement pour les touristes et les résidents qui y font appel, mais aussi pour une clientèle nettement plus captive, celle du transport adapté. Oubliée dans les débats actuels, cette clientèle est surtout composée d'aînés et de personnes handicapées physiques ou intellectuelles. Relevant de la Société de transport de Montréal, le transport adapté est avant tout un service public essentiel pour plus de 26 000 clients réguliers, que ce soit pour le travail, des loisirs ou les rendez-vous médicaux. En transport adapté, c'est toutefois par taxi qu'une part substantielle des 3 millions de déplacements annuels à Montréal se fait. Grâce à une grille tarifaire modulée, ces revenus sont loin d'être accessoires pour l'industrie. Or, c'est la même industrie dont la flotte souffre des mêmes problèmes criants: malpropreté, manque de courtoisie, formation déficiente, etc. Pas pour tous les taxis, mais pour un nombre de plus en plus inquiétant. Le tout a deux immenses différences près. 1. La clientèle du transport adapté est vulnérable. 2. Elle n'a aucunement le loisir de se magasiner des solutions de rechange. Ajoutons les retards devenus monnaie courante, les clients cordés parfois à trois sur le siège arrière très serré et en toute légalité selon les normes actuelles. La climatisation souvent absente, de trop longs trajets pour ramasser plusieurs clients par voiture, et j'en passe. Pour un service essentiel, ce sont des conditions qu'aucun ministre des Transports, tout gouvernement confondu, n'endurerait pour lui-même, ne serait-ce qu'une seule seconde. Enfin, dans le Journal de Montréal, la caricature traite de la situation préoccupante pour le doublage au Québec. Alors, nous avons sur une télé un Philippe Couillard des élections de 2014 qui dit « We will create 250,000 jobs and prosperity for all ». Et on a le Philippe Couillard qui traduit en doublage la phrase qui dit « bla bla bla, austérité, bla bla bla, coupure ».
Taxi! Demain soudé au volant, la casquette sur le côté, un cure-dent entre les dents, avec ça les nerfs d'acier, du tabac pour passer le temps, des revues pour relaxer, un compteur qu'il faut monter afin de se faire payer, une auto à dépasser, une lumière à esquiver, un piéton à éviter, des gendarmes se défiler, une rue en réparation, il faut changer de direction, tout à coup un coup de klaxon. Maudit, j'ai une crevaison. Comment ça se fait, ça? Courage, mon gars, la nuit viendra pour te reposer de cette vie-là. En attendant, prends ton café sur le comptoir du grand relais. Taxi! Il reprend ses nerfs d'acier, son cure-dent entre les dents, sa casquette sur le côté, ses mains soudées au volant, les yeux à demi fermés, il se remet à naviguer dans sa tête, une seule idée, l'adresse du client dictée, une auto à dépasser, une lumière à esquiver, des piétons à éviter, des gendarmes se défiler, une rue en réparation, faut changer de direction, tout à coup, un coup de sifflet. Pourrais-tu voir vos papiers, je vous plains? Courage, mon gars, la nuit viendra pour te reposer de cette vie-là. En attendant, prends ton café sur le comptoir du grand relais. Taxi! Bon, ça y est, bien que ça prend ma casquette entre les dents. Plus vite me crie le client, mon cure-dent sur le volant. Faites ça vite, on n'avance pas, cigarette. Non, non, je ne fume pas. Pourriez-vous me donner l'heure? Je presse l'accélérateur, que les feux rouges s'éteignent. Gendarmes, bandez-vous, sirènes, que les autos disparaissent, avec elles toutes les adresses. Hey, dis donc, qu'est-ce que tu dis, mon bon chauffeur de taxi? Après tout, qu'est-ce que ça fait dans ce métier de fou que je fais? Courage, mon gars, la nuit viendra pour te reposer de cette vie-là. En attendant, prends ton café sur le comptoir du grand relais. J'ai pas le temps pour les clients!
C'était Claude Léveillé qui nous chantait « Taxi ». À la une du droit d'Ottawa-Gatineau, torturée et humiliée sur le web, une jeune femme a été séquestrée, torturée et finalement humiliée sur les réseaux sociaux. Une histoire de jalousie serait à l'origine de ce drame d'horreur où une femme de 40 ans a déjà été arrêtée et accusée. Buckingham retrouve sa fête et Caen lance les festivités. Karine Thomas à l'école des Jeux et selon un chercheur ottavien, Bourdon serait menacé. Dans les pages du droit, un éditorial de Pierre Jury sur les langues officielles, plus de 40 ans d'espoir déçu. Après 46 années, la loi sur les langues officielles du Canada subit encore des accrocs frustrants. Que ce soit dans la mise en place de grandes politiques nationales ou dans des gestes de la vie de tous les jours, le quotidien des Canadiens qui veulent faire respecter leur langue officielle est jonché d'écueils qui mènent à bout de nerfs. Prenez par exemple ce voyageur francophone qui a été la cible d'une arrestation musclée à l'aéroport Billy Bishop de Toronto, ironie du sort, le 1er juillet dernier. En voilà un qui n'avait certainement pas le goût à célébrer le pays. Les informations concernant cet événement sont parcellaires et sujettes à interprétation de l'une ou de l'autre des parties impliquées. Il n'existerait pas de preuves vidéo de ce qui s'est passé, et même cela peut varier selon qu'on parle à la victime ou aux autorités. Le litige aurait débuté autour d'un simple verre de jus de pomme commandé auprès d'une agente de bord unilingue anglophone sur un vol Montréal-Toronto. Il n'y avait pas de personnel bilingue à bord et la frustration du client de 51 ans, Louis Labrecque, aurait haussé d'un cran lorsqu'on lui aurait demandé de respecter les consignes de sécurité avant l'atterrissage. Évidemment que si Porter avait comme politique d'embaucher du personnel bilingue, rien de tout cela ne serait passé. Le dérapage serait mort dans l'œuf. Il faudrait s'y attendre sur le marché des voyageurs du Québec, bien que tous les francophones du Canada devraient avoir droit aux mêmes égards d'une société présente à l'échelle mondiale. Le transporteur n'est pas comme Air Canada qui, à titre d'ex-société de la Couronne, a une responsabilité accrue quant au respect de la loi sur les angles officiels. Cette dernière l'a longtemps contestée, pour elle comme pour ses sociétés affiliées, mais a perdu devant les tribunaux. Mais Porter a la responsabilité du gros bon sens face à sa clientèle. Que l'on vende des billets d'avion ou des boulons de camion, les lois du marketing suggèrent que l'on parle la langue du client. De telles pratiques commerciales unilingues sont incompréhensibles du point de vue des francophones qui ne paient pas leurs billets moins chers pour un service de seconde zone. Cela dit, la frustration ressentie par ce traducteur de métier, si elle se comprend, ne lui permet pas de faire la sourde oreille aux consignes de sécurité à bord. Elles sont annoncées par enregistrement dans les deux langues officielles du pays et il devrait les respecter. Peut-être que l'échange a manqué de courtoisie d'un côté ou de l'autre. Cela peut se comprendre de la part d'un client excédé par des décennies de droits bafoués, mais cela n'excuse pas un comportement non sécuritaire. L'aéroport Billy Bishop doit compter sur du personnel bilingue. Dans ce cas, comme pour Air Canada, il s'agit d'une obligation. Et les autorités aéroportuaires ont failli à la tâche. Aucune excuse ne tient. D'autant plus que devant un client excédé, la situation aurait pu déraper inutilement, voire dangereusement. Cette situation était intolérable et relève d'une politique d'embauche laxiste qui peut être corrigée par un minimum de bonne volonté. Malgré ses bonnes intentions, la loi sur les langues officielles est confrontée au manquement et à l'insensibilité d'une majorité linguistique. Au-delà de cette loi, combien de décennies faudra-t-il patienter encore pour obtenir du respect comme francophone dans ce pays? En une de la tribune de Sherbrooke, Raif Badawi fait citoyen de Sherbrooke. J'y reviens dans un instant. BioSelect ferme ses portes à Lac-Mégantic. Les Bar Brothers enflamment la rue Wellington. Et le Mondial des cultures ouvre la danse. Alors, en effet, Jonathan Custeau signe un texte intitulé « Plus que jamais, Sherbrooke et Raif ». Plus que jamais, Sherbrooke et Raif Badawi. À la suite d'un discours du maire Bernard Sévigny devant l'Hôtel de Ville hier après-midi, deux immenses banderoles ont été déployées en soutien au blogueur saoudien condamné à 10 ans de prison et à 10 000 coups de fouet pour des textes qu'il a publiés sur son blog. Les deux banderoles, qui couvrent une partie de la façade de l'Hôtel de Ville, seront installées en permanence dans l'espoir que M. Badawi soit libéré. La première porte la mention « Sherbrooke et Raif », alors que la seconde indique « Raif Badawi, citoyen de Sherbrooke ». Les membres du conseil municipal sont profondément touchés par le sort qui est réservé au Saoudien Raif Badawi. Sa condamnation a amené tous les Sherbrookois, tous les Canadiens et les citoyens de plusieurs nations à se lever et à revendiquer le droit à la liberté d'expression, pilier inéluctable de la démocratie, a commenté Bernard Sévigny. Le maire n'a pas manqué de souligner que se tiendra aujourd'hui devant le palais de justice de Sherbrooke à 12h30 une 27e vigile en appui à M. Badawi. Il y a 27 semaines, ce rassemblement apparaissait comme un acte isolé. Mais aujourd'hui, il fait partie d'une vaste campagne dont il est le cœur. Il en est le cœur parce que c'est ici que sa famille a choisi de l'attendre et de lancer son appel. Cet appel, Sherbrooke l'a entendu et a choisi de participer à ce combat. En témoignage de notre solidarité, nous avons décidé d'arborer les couleurs d'Amnesty International, des couleurs fortes associées à un slogan désormais très connu, Sherbrooke et Raif. Les deux banderoles arborant le visage du blogueur saoudien se sont déroulées d'un coup, un symbole émouvant qui a beaucoup touché la conjointe de Raif Badawi, Ansa Faidar. Les yeux humides et la voix étranglée par l'émotion, elle a remercié tous ceux qui posent un geste pour son conjoint. Merci pour Raif. Je pense que c'est important pour Raif. Ça lui donne du courage et de l'espoir. Je suis très, très contente et c'est très important et très touchant. Ces banderoles rappelleront à tous et à toutes que les Sherbrookois sont avec Raif Badawi et demandent sa libération. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas lâcher la pression. Ensemble, nous pouvons faire pencher la balance et participer au dialogue de tolérance et d'ouverture initié par Raif Badawi, a ajouté Bernard Sévigny en décernant un certificat de citoyen de Sherbrooke à M. Badawi. Une citoyenneté sherbrookoise, c'est officieux, mais c'est significatif sur le plan du symbole. Nous avons très hâte de l'accueillir à Sherbrooke. Mireille El-Shakar, coordonnatrice d'Amnesty International en Estrie, a qualifié ces gestes de preuve ultime de solidarité. Je trouve très fort que la ville de Sherbrooke s'implique à ce point dans le dossier parce que cette solidarité a commencé à l'échelle régionale. Pour nous, le fait d'avoir un ancrage dans Sherbrooke a fait en sorte que tous les acteurs de la société civile se sont joints à nous. Le message est clair, le message est fort. Nous n'arrêterons pas tant que Raif ne sera pas libéré et tant qu'il ne sera pas avec nous ici au Québec, à Sherbrooke. Quand le gouvernement canadien voit que ses citoyens agissent et sont autant mobilisés, ça ne peut que continuer à mettre des pressions auprès de M. Harper. Dans ce cas-ci, on montre qu'en région, on peut faire une campagne qui fait bouger le monde entier. Et à travers tout le brouhaha, une dernière question à celle qui mène une lutte sans relâche. Comment allez-vous, Mme Haïdar? Je vais bien. Je veux dire merci beaucoup à tous les Québécois.
On my shoulders, pressure to break or retreat at every turn, facing the fear that the truth had discovered, no telling how. It's a push for moving on. Ooh, yeah. In time, ooh, the sun's gonna shine on me nicely.
One day, yeah.
Something tells me good things are, whoa, coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom. Looking for freedom.
Anthony Hamilton nous chantait Freedom. En une du Soleil de Québec, Festival d'été de Québec, départ électrique. Nos critiques, Skrillex, Vance Joy, et Zebda. Et sur les plaines, le choc des générations. Compteur, socle et risque de surchauffe, Hydro-Québec rassure sa clientèle. Exclusif, Lebel s'engage à hauteur de 60 millions pour le port. Et PORT, précisons, le port de Québec, bien entendu. Et Mylène Moisan, la longue quête pour un dermatologue. Et c'est cette chronique de Mylène Moisan que je vous lis à l'instant. Le Saint Graal ou comment trouver un dermato. Début avril, Christiane, nom fictif, est sortie du bureau de son médecin de famille avec une demande de consultation pour un dermatologue. Un grain de beauté louche, son bon docteur soupçonnait un cancer. Elle a sauté sur le téléphone en arrivant à la maison pour prendre rendez-vous. Elle voulait en avoir le cœur net le plus vite possible. Elle a appelé 28 dermatologues en 2 jours. Elle habite en banlieue de Montréal. Impossible d'avoir un rendez-vous. Soit ils ne prennent pas de nouveaux clients, soit ils font ça au privé. De guerre lasse, elle a pris rendez-vous au privé. Le mercredi suivant, elle est devant le dermatologue. Le monsieur regarde son grain de beauté et lui dit qu'il ne peut rien pour elle, que la chose est possiblement cancéreuse, mais mal positionnée. Il lui refile les coordonnées d'une plasticienne au privé qui la soulagera de son grain de beauté et de 250 $. Le lendemain, elle croise une bonne connaissance, lui raconte son histoire. C'est son jour de chance, cette connaissance connaît bien un dermatologue et lui obtient un rendez-vous quelques semaines plus tard. Le dermatologue enlève le vilain bobo. C'était un baso, le plus gentil des cancers de la peau. Ça aurait pu être un mélanome. Les cancers de la peau sont parmi ceux qui augmentent le plus rapidement au pays. On ne cesse de nous seriner qu'il faut voir nos grains de beauté à l'œil, qu'on ne badine pas avec ça, que le temps est notre pire ennemi. Christiane crie à l'imposture. On fait croire qu'il y a des dermatologues, mais ce n'est pas vrai. Pour avoir une consultation dans des délais raisonnables, il faut payer. Moi, je paye pour la RAMQ et je suis en droit de m'attendre à pouvoir consulter un dermatologue si j'en ai besoin. Si on leur permet de se désaffilier sans avoir à compenser le système public, je devrais moi aussi pouvoir me désaffilier. Pas longtemps après, la fille de Christiane a aussi eu à consulter un dermatologue pour un vilain grain de beauté. Elle a fait comme sa mère, elle est allée au privé. C'était un mélanome près des ganglions de laine. Le médecin le lui a enlevé sans investiguer davantage. Les mélanomes ont la fâcheuse manie de s'étendre. Christiane rappellera sa bonne connaissance. J'ai consulté le plan d'effectifs médicaux 2014-2015 du ministère de la Santé. On y apprend que 122 dermatologues travaillent dans un hôpital, que 43 postes sont vacants. À Drummondville, les 2 postes sont libres. Même chose à La Sarre en Abitibi. Un seul dermatologue est en poste à l'hôpital de Val-d'Or. Sur la Côte-Nord, il y en a un seul, il est à Sept-Îles. Le 2e poste vacant est à Baie-Comeau. Pour avoir un rendez-vous, il faut consulter le répertoire de l'Association des dermatologistes de Québec, l'ADQ. Ils sont 200 dans toute la province. 15 ce sont des affiliés du régime public. Il y en a d'autres qui ont choisi de faire dans l'esthétique et qu'on peut, en théorie, voir au public. En Estrie, il y a présentement un bris de service, c'est la 2e fois. À Montréal, les dermatologues du CHUM sont complètement débordés et à Québec, au CHUL, il faut envoyer la demande de consultation par télécopieur et attendre. Mercredi, j'ai joué à la fille qui en met une demande de consultation pour un dermatologue. J'ai appelé patiemment au numéro inscrit au répertoire de l'association. D'abord, le répertoire n'est pas à jour. Les numéros ne sont plus en service, d'autres ont été changés, mais passons. Il y a 29 dermatologues à Québec, 28 si on enlève celui qui s'est désaffilié de la RAMQ. Voici grosso modo la teneur des conversations que j'ai eues. « Bonjour, j'ai un billet du médecin, je dois avoir un dermatologue pour un grain de beauté. Comment ça fonctionne pour voir docteur untel? L'avez-vous déjà consulté? Non. Il ne prend pas de nouveaux clients, désolé. » Dans une clinique, on prenait les appels uniquement les lundis, les mardis et les jeudis, tout en m'invitant à laisser un message dans la boîte vocale. À 2 autres endroits, on m'a dit d'appeler à tel jour bien précis du mois d'août à partir de 8 heures pour avoir la chance d'obtenir un rendez-vous en octobre ou en novembre. Ça devrait aller en 2016 ou en 2017, a-t-elle entendu ailleurs. Je vais laisser faire, merci. Mieux, une grosse clinique de dermatologie où on m'invite à écouter un long message jusqu'au bout pour ne pas attendre inutilement. Pour un nouveau rendez-vous, on m'avertit qu'il se pourrait que la moutarde me monte au nez. Puisque le débit est très élevé en dermatologie, ne pouvant combler toutes les demandes, nous vous demandons de Excusez-moi, j'ai été un petit peu mêlée dans mes signaux que j'envoyais à mon metteur en onde. Le texte n'est pas drôle du tout. Pour un nouveau rendez-vous, on m'avertit qu'il se pourrait que la moutarde me monte au nez. Puisque le débit est très élevé en dermatologie, ne pouvant combler toutes ces demandes, nous vous demandons de rester respectueux envers notre personnel, prévoit-il d'avance. Voilà ce qui s'appelle, au pied de la lettre, prendre son mal en patience.
Quotidien avec Christiane Campagna.
Tu parles, tu dis, mais tu dis rien. Que des mots en rafale, sans but et sans rien. Tu déraisonnes d'une voix qui grogne, croyant à l'illusion que l'on comprend à la force du ton. De mots disparates que je ne comprends pas. Et arrête tes inepties. Si je veux avoir le cœur net, tu parles à l'infini. C'est pire qu'une devinette. Un déluge de mots expulsés exprès pour laver mon cerveau et te défouler bien faire. Mais tu cries et tu cries, mais moi je ne t'entends pas. Je n'entends qu'un bruit blanc qui sort de toi. Tu cries et tu cries, mais pourquoi tu cries? Des mots qui trahissent ton mal farouche. Et arrête de te débattre et reçois ce que je te donne. Et rien de plus beau que deux âmes qui s'abandonnent. Et c'est toujours tu perçois le calme dans ma voix. C'est pour qu'enfin tu sois encore plus sûr de toi. Commandé par l'emprise des émotions qui grondent, te prennent et te conduisent aux abysses les plus sombres. Mais tu cries, tu cries, mais moi je ne t'entends.
C'était Amélie qui nous chantait « Mes oreilles », si je ne me trompe pas, tiré de son premier album. Je vous lis un texte que Clotilde avait mis de côté, un texte qui est paru vendredi dernier. Il y a des journées où les sujets intéressants dans les journaux abondent, des journées où il y en a moins, alors on se garde comme ça des petits textes en réserve. Celui-là s'intitule « Les inégalités rendent-elles malades ?» Il s'agit d'un article de Mathieu Perrault. dans le Devoir. Depuis quelques années, deux épidémiologistes britanniques, Richard Wilkinson et Kate Pickett, ont popularisé l'idée que les sociétés inégalitaires sont en moins bonne santé, ont plus de crimes violents, des enfants moins bien éduqués, entre autres problèmes, notamment avec leur livre « The Spirit Level ». Le couple était la semaine dernière à Montréal pour une conférence. Oh, c'est pas dans le Devoir du tout, c'était dans la presse. Je vous ai dit n'importe quoi. La presse a rencontré le Dr. Wilkinson à l'Université Concordia. Pourquoi les inégalités de revenus rendent-elles malades? Les inégalités entraînent un stress chronique parce que le revenu devient la mesure de la valeur d'une personne. On envie les plus riches et on considère les pauvres comme des moins que rien. Il y a moins de liens sociaux, d'engagement social, plus de méfiance. Les gens se sentent jugés. Ce stress psychosocial mine la santé de tous, pas seulement des pauvres. Avoir des amis est au moins aussi important pour la santé que le fait de ne pas fumer. L'austérité dans les finances publiques est-elle mauvaise pour la santé publique? Si on coupe dans les services publics, on augmente les inégalités. Je ne suis pas économiste, mais pour diminuer le poids de la dette, on peut soit la réduire, soit augmenter la taille de l'économie. Le Royaume-Uni a mis sur pied l'État-providence dans les années 40, alors qu'il était beaucoup plus endetté que maintenant. Une autre question plus loin, la solution réside-t-elle dans un renforcement des syndicats? Les syndicats étaient importants parce qu'ils faisaient contrepoids au pouvoir des riches de la droite. Mais je crois qu'il est trop tard pour renforcer leur influence. Cela dit, la baisse des inégalités entre les années 30 et 70 n'est pas seulement due au syndicalisme, mais surtout à la menace du communisme qui, en quelque sorte, a été providentielle pour le capitalisme. Et enfin, je voulais une dernière question que Mathieu Perrault demande aux auteurs. Quelle est alors la solution au problème de l'inégalité? Il faut augmenter la démocratie économique, avoir des employés au conseil d'administration des entreprises, favoriser les entreprises dont les employés sont les propriétaires. Je ne parle pas de nationalisation. Le gouvernement ne doit pas être propriétaire, mais plutôt les employés. C'est le prochain grand pas dans le progrès humain. Nous sommes arrivés à la limite des améliorations possibles de la condition humaine seulement avec l'accroissement de la richesse. Dans un ordre plus léger, mesdames et messieurs, l'été, la saison des festivals de la bière, c'est la chronique Saveur bière qui paraît les vendredis dans le Journal de Montréal, de David Lévesque-Gendron et Martin Thibault. Y a-t-il quelque chose de plus agréable que de boire une bière dehors en période estivale? Non, mais oui. Boire de nombreux échantillons de bière différentes dans une atmosphère festive constitue une variante sur le même thème qui peut s'avérer encore plus divertissante. Le festival de bière, où se regroupent de nombreux brasseurs afin de faire découvrir leurs produits au grand public, n'est pas un concept nouveau. L'événement brassicole le plus connu à travers le monde, l'Oktoberfest de Munich, se tient maintenant depuis plus de 200 ans. Au Québec, le Mondial de la bière agit comme doyen du haut de ses 22 bougies. L'édition annuelle tenue en juin aurait attiré près de 200 000 visiteurs. Si le Mondial demeure la principale référence pour découvrir un vaste éventail de produits internationaux, de nombreux festivals plus régionaux ont vu le jour au cours des dernières années. Une simple recherche « festival de bière » dans votre région sur Internet devrait vous fournir un résultat à distance raisonnable de votre domicile. Le prochain au calendrier, le Festival des bières de Laval, tiendra sa première édition au Centre de la nature du 10 au 12 juillet. Dans une ambiance festive et familiale, une trentaine de microbrasseries feront découvrir certaines de leurs bières en compagnie de nombreux autres producteurs du terroir québécois. La fin de semaine suivante, Chicoutimi sera à nouveau hôtesse du Festival de bière du monde, le Festival des bières du monde, un des plus importants événements du genre. Et ainsi de suite, jusqu'à l'automne. Certains amateurs font la chasse au festival, puisque ces derniers représentent des occasions uniques de déguster une grande variété de bières et ainsi élargir nos horizons de dégustation en peu de temps. La possibilité de comparer de nombreux exemples de plusieurs types de bières qui leur plaisent, et ce, à un même endroit, est certainement l'une des motivations. Une autre est évidemment la possibilité de découvrir de nouveaux produits, parfois même servis par des artisans qui ont participé à leur élaboration. Cette proximité entre le producteur et le consommateur est à n'en point douter l'un des plus grands charmes de l'industrie brassicole québécoise. Donc, longue vie au festival qui permettent de perpétuer cette tradition. Et les auteurs ajoutent un petit « le saviez-vous ». Le Great American Beer Festival, l'un des plus importants festivals brassicoles du monde, permet de déguster pas moins de 5500 bières provenant de 1300 brasseries américaines différentes. Nous sommes bien loin de l'époque où la bière américaine n'était que légère et ennuyante. Et dans la section Zone libre, je vous lis la chronique de Catherine Voyer-Léger qui nous ramène le 14 juillet 1987. Souvenir d'été, l'enfant des eaux. Je ne me souviens pas beaucoup du 14 juillet 1987, le jour du déluge de Montréal, mais c'est une journée facile à reconstruire. J'avais presque 8 ans et ce matin-là, je me suis réveillée dans l'appartement de mon père sur le plateau Mont-Royal. De ce lieu et de cette époque, j'ai surtout souvenir de la disposition tout en long du logement, de la disposition tout en long du logement plutôt, toi, les appartements typiques du plateau, des escaliers vers le troisième étage, du parc en billets, du dépanneur en face, des œufs à la coque et de quelques étonnants moments, amis, cadeaux de cette première partie de ma vie. Je me souviens aussi que je haïssais déjà l'humidité. On peut donc imaginer que ce matin-là, je me suis levée du mauvais pied, un peu brumeuse, comme le cœur gros de moiteur et l'impression que le sommeil ne durerait jamais assez longtemps. La ville vivait depuis plusieurs jours déjà dans la canicule. Et ce jour-là, il s'est mis à pleuvoir comme si le ciel perdait toutes ses eaux pour la suite du monde. C'est peut-être l'image qui venait à mon père, la perte des eaux. Ou alors c'est sa blonde, enceinte et mûre, qui lui a dit que ça ne tarderait pas. Toujours est-il que mon père a décidé qu'il devait me ramener chez ma mère ce jour-là. Ce n'était pas une super idée pour tout vous dire. Mais à 8 ans, on n'a pas une connaissance pratique suffisante de la vie pour s'obstiner sur des questions de logistique. La seule chose dont je me souviens précisément, c'est de m'être endormie dans la voiture, épuisée sans doute de chaleur et d'émotion, et après ce qui m'a semblé une très longue sieste, m'être réveillée sans que nous ayons encore quitté l'île de Montréal. Je me souviens aussi, mais de façon plus ténue, de l'atmosphère à couper au couteau dans cette voiture, un mélange de colère, d'angoisse et d'excitation. Je nous revois roulant dans des quantités d'eau qui dépassent l'entendement, traversant des bouchons très denses. Je ne sais pas non plus comment mon père a fait pour rentrer à Montréal après m'avoir reconduite, ni combien d'heures ça lui a pris. Je ne sais pas si mon père a réussi à rentrer à temps ou si sa blonde a eu ses premières contractions seule dans l'appartement. Je ne pense pas qu'on m'ait jamais raconté ça ou alors je n'ai pas entendu. Finalement, je me rappelle bien peu du 14 juillet 1987. Mais je n'ai rien oublié du lendemain. Le 15 juillet 1987, j'étais dans ma maison maternelle des Laurentides. Je me souviens du téléphone, de maman qui me passe le combiné avec un sourire un peu mouillé. Je me rappelle solennel, m'être assise sur le fauteuil en cuir parce que je savais qu'il valait mieux être assise pour entendre ça. Mon père, au bout du fil, voulait m'annoncer que j'avais un petit frère, un bébé qui était arrivé avec les eaux. J'ai beaucoup pleuré en raccrochant. Je ne l'avais pas vu encore, mais pour la première fois, j'aimais quelqu'un de plus fragile que moi. C'est finalement le souvenir qui compte vraiment de cet été-là, le vertige de grandir.
J'aime les idiots, j'aime les chapeaux, j'aime les boxeurs, j'aime la chaleur, j'aime les voitures, j'aime les Arthurs, j'aime les grandes femmes, j'aime les aéroports, j'aime, oui, j'aime tes couleurs, j'aime ta pâleur, j'aime les matins de brume, le soleil et la lune, j'aime, oh j'aime. J'aime le verglas, j'aime les iris, j'aime les autoroutes.
Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute?
C'était L'Amoureux d'Arthur Ashe qui sera, si je ne me trompe pas, il me semble que j'ai vu passer ça au Festival d'été de Québec. Mais il est souvent au Québec, Arthur Ashe. Dans la page éditoriale de la presse, Marc Thibodeau signe un éditorial sur le cas grec, encore une fois. Ça s'appelle « Le tabou ». La crise grecque, qui approche de son dénouement, repose sur un tabou qui n'a pas sa raison d'être. Tel est du moins l'avis de l'influent économiste français Thomas Piketty, qui réclame l'effacement d'une part importante de la dette du pays pour lui permettre de se remettre sur pied. L'Allemagne ne veut rien entendre aujourd'hui d'une telle approche. Elle est pourtant bien placée, historiquement dit l'économiste, pour comprendre l'intérêt de la chose, puisqu'elle a bénéficié de l'annulation de 60 % de sa dette au début des années 50, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Cette décision éclairée a permis au pays de se reconstruire, note l'analyste, qui juge insensé les cibles budgétaires que les créditeurs de la Grèce veulent lui imposer aujourd'hui en contrepartie d'un troisième plan d'aide. Son appel trouve de plus en plus d'écho, incluant dans des cercles qui peuvent difficilement être soupçonnés de laxisme économique. Le Fonds monétaire international, le FMI, a reconnu dans une analyse parue à la fin du mois de juin qu'une annulation substantielle de la dette risque de s'avérer nécessaire. Depuis le début de la crise, l'austérité imposée au pays a fait chuter le PIB de 25 % de telle manière que le ratio de la dette sur le PIB excède aujourd'hui 170 % Le coût social des compressions a été énorme pour la population grecque. La victoire du non au référendum de dimanche reflète son exaspération devant des propositions qui ne règlent pas le problème de fond. La Grèce a dépensé de manière excessive et irresponsable, c'est l'évidence. Mais ces dépenses ne se sont pas faites seules, rappelle l'économiste Jeffrey Sachs, qui évoque la responsabilité partagée du pays et de ses créanciers dans la crise. Les institutions bancaires européennes, en particulier françaises et allemandes, ont accordé des prêts énormes à la Grèce avant d'appeler les autorités à l'aide lorsque la crise a éclaté en 2009. L'Allemagne, à l'instar d'autres pays adeptes de la ligne dure envers la Grèce, ne veut pas voir sa part des prêts disparaître, notamment parce que sa population ne veut pas payer. La chancelière Angela Merkel craint par ailleurs qu'une annulation substantielle de la dette amène d'autres États de la zone euro à formuler des demandes équivalentes. La préoccupation apparaît légitime, mais sa fermeté apporte aussi son lot de risques, incluant celui pour son pays de perdre la quasi-totalité des prêts consentis à la Grèce en cas de Grexit. Le secrétaire au Trésor américain Jacob Lew a dit espérer mercredi que l'Allemagne et les autres créditeurs mettront de l'avant un plan de restructuration de la dette insoutenable du pays en échange de la promesse de nouvelles réformes. L'élaboration d'un compromis réaliste apparaît plus urgente que jamais, nous disait Marc Thibodeau. Toujours dans les pages mondes de la presse, sous la plume de Judith Lachapelle, Liberté de la presse au Maroc, le caricaturiste qui ne rigole plus. Khalid Guédard ne rigole plus. Alors qu'il s'apprêtait à lancer un nouveau magazine satirique au Maroc, le caricaturiste a été condamné la semaine dernière à 3 mois de prison ferme pour une histoire qu'il croyait oubliée. Une nouvelle qui tombe au moment où plusieurs autres journalistes marocains sont visés par des décisions judiciaires qui minent leur liberté d'expression, accusent les défenseurs des droits de l'homme. Pour Khalid Guédard, joint par la presse mercredi au Maroc, il n'y a pas de hasard. « Ils n'ont rien d'autre pour me coincer », dit-il. En 2012, il avait été accusé d'avoir été en état d'ébriété sur la voie publique, ce qu'il avait toujours contesté. 3 ans plus tard, c'est-à-dire la semaine dernière, ses avocats et lui ont appris, sans avoir reçu de citation à comparaître, qu'il avait été condamné à 3 mois de prison ferme. Il a déjà fait savoir qu'il ne ferait pas appel de la décision parce qu'il ne fait pas confiance à la justice de son pays. « Je considère que tout ça, c'est une guerre contre les journalistes de ce pays qui gueulent pour dire que la liberté d'expression est en danger », dit Khalid Guédard, qui avait aiguisé ses crayons en travaillant avec l'équipe de Charlie Hebdo il y a quelques années. Youssef Raïssouni, de l'Association marocaine des droits humains, dit constater une régression dans la situation des droits de l'homme au Maroc. On est dans une atmosphère caractérisée par une répression de la presse indépendante et de la presse engagée, observe l'homme joint cette semaine à Rabat. Ces journalistes ne cessent de critiquer les autorités. Ils dérangent beaucoup, dit M. Raïssouni, soulignant même son association n'a plus le droit d'organiser des événements publics. Khalid Guédard n'est pas le seul journaliste à avoir eu affaire à la justice marocaine depuis un mois. Le directeur d'un journal arabophone en ligne, Good.ma, a été accusé de diffamation et condamné en juin à payer 50 000 dinars, c'est-à-dire 70 000 $ canadiens, au secrétaire du roi. La semaine dernière, un autre directeur de journal a dû verser l'équivalent de 14 000 $ canadiens à la police, en plus d'écoper de 4 mois de prison, après avoir publié des informations sur la mort d'un militant politique dans un commissariat de police d'Al-Hoceima. Dans le Devoir, on nous dit que l'armée syrienne à l'assaut de Palmyre, c'est un texte de l'agence France-Presse. Les troupes du régime syrien, appuyées par l'aviation, ont avancé jeudi à quelques kilomètres de Palmyre, livrant combat aux djihadistes du groupe État islamique, soit le I, à l'extérieur de cette cité antique du centre du pays en guerre. Les soldats syriens sont désormais à 5 kilomètres à l'ouest de la ville et des combats violents les opposent aux djihadistes, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le nombre de réfugiés syriens dépasse désormais les 4 millions, la plupart vivant dans la misère et rêvant d'immigrer en Europe après avoir perdu tout espoir de rentrer dans leur pays ravagé par la guerre. C'est la plus grande population de réfugiés pour un seul conflit en une génération, a affirmé jeudi Antonio Guterres, patron du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, qui a publié le nouveau chiffre de 4,1 millions de Syriens ayant fui leur pays depuis 2011. Le HCR a noté une hausse d'un million de réfugiés en 10 mois et table sur un chiffre global de 4,27 millions fin 2015. C'était la formation MAZ avec Prototype E, c'est bien ça, Rémi? Voilà, c'est une formation de Montréal. Quelques nouvelles du sport, d'abord du tennis. Serena domine encore Sharapova. S'approchant du record de Steffi Graf, lauréate de 22 trophées majeurs, Serena est toujours en course pour réaliser le Grand Chelem sur une année calendaire, comme la vedette allemande l'avait fait en 1988. Elle a déjà fait la moitié du chemin en remportant les Internationaux d'Australie et Roland-Garros, après avoir achevé la saison 2014 avec un sixième titre aux Internationaux des États-Unis. Il lui reste donc 8 matchs à remporter pour égaler Graf. La finale demain sur le court central, pour la première fois depuis 2012, et 7 autres rencontres lors de la compétition new-yorkaise. Elle pourrait alors se pencher sur un autre record absolu, établi par l'Australienne Margaret Court, 24 fois titrée en majeur entre 1960 et 1973. S'appeler Court et jouer au tennis, c'est ce qui s'appelle porter le bon nom. À bientôt 34 ans, la cadette des sœurs Williams, qui ne veut plus entendre parler de record, a déjà l'opportunité de réaliser le Grand Chelem sur 2 ans, une prouesse qu'elle a déjà réussie entre 2002 et 2003. Si elle réédite sa prestation de haut vol contre Sharapova, l'Américaine devrait y parvenir. Grâce à sa puissance incomparable et un service efficace, elle a défait Sharapova pour la 17e fois d'affilée. Après cette démonstration de force, Serena aborde la finale avec une énorme confiance. Mais elle devra toutefois se méfier de l'athlétique Muguruza, qui l'avait surprise au deuxième tour de Roland-Garros l'an passé, l'emportant entre 2 manches, 6-2 et 6-2. Est-ce que vous vous souvenez du Deflategate? Alors, on apprend dans la presse, dans le Journal de Montréal, qu'une décision sera prise sous peu. Tom Brady connaîtra le résultat de son appel la semaine prochaine, a annoncé le commissaire de la NFL, Roger Goodell, au réseau CNBC hier. Le quart arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre avait été entendu le 23 juin concernant son implication dans le scandale des ballons dégonflés, communément appelé le Deflategate. Au cours du gain de 45-7 acquis aux dépens des Colts d'Indianapolis lors des derniers éliminatoires en finale de l'Association américaine, précisément, les Patriots ont obtenu l'aide de 2 employés du vestiaire qui auraient remis aux autorités 11 ballons sur 12 insuffisamment gonflés. Les Pats ont ensuite poursuivi leur route vers le triomphe au Super Bowl. Du côté des Jeux panaméricains, bon départ du Canada en nage synchronisée. Le Canada a bien entamé la défense de ses titres panaméricains aux épreuves en duo et en équipe de nage synchronisée hier, en terminant premier dans chacun des programmes techniques. La formation canadienne a devancé le Mexique et les États-Unis lors de la compétition en équipe en soirée. La performance des 8 athlètes, dont les Québécoises Karine Thomas, Jacqueline Simoneau, Annabelle Frappier et Marie-Lou Morin, s'est révélée sans faille. Plus tôt hier, Thomas et Simoneau avaient donné le ton en rapportant le programme technique de l'épreuve en duo, leur permettant de s'approcher d'une qualification pour les Jeux olympiques de Rio en 2016. Elles ont devancé le Mexique et les États-Unis. Si elles décrochent la médaille d'or de demain, Thomas et Simoneau obtiendront alors leur laissez-passer pour les Jeux olympiques l'an prochain. Simoneau, qui n'est âgée que de 18 ans, est la plus jeune athlète de l'équipe. Et du côté du patinage extrême, on apprend que le Crashed Ice sera de retour à Québec en 2016 après une pause en 2015 où l'événement avait plutôt eu lieu du côté d'Edmonton.
Avec Christiane Compagna.
Rebonjour tout le monde, Christiane Compagna avec vous. Pour la première fois depuis, parce qu'on a un petit peu revu l'ordre dans des rubriques, vous l'avez sans doute remarqué depuis le début de l'été, et bien pour la première fois, il va vraiment y avoir un lien entre le fait qu'on a lu avant la pause les sports et ce volet culturel. Puisque j'arrive à cet article de Pierre-André Normandin dans la presse qui nous dit que Montréal veut les Jeux des arts. la renaissance du volet artistique des Jeux olympiques pourrait passer par la métropole en 2018. Les Jeux olympiques pourraient revenir à Montréal beaucoup plus rapidement que prévu. Mais plutôt que des athlètes, ce sont des artistes du monde entier qui pourraient fouler le sol de la métropole en 2018 pour y décrocher une médaille. Abandonné depuis 1948, le volet artistique des Jeux olympiques s'apprête en effet à revivre. L'International Art Games Committee, le IAC, dit travailler avec le Comité olympique international pour recréer une telle compétition en marge des Jeux. Peu de gens s'en souviennent, mais de 1912 à 1948, les Jeux comprenaient une demi-douzaine de compétitions artistiques, conformément à la volonté du père des Jeux modernes, Pierre de Coubertin. Tout comme les athlètes, des sculpteurs, poètes et architectes concurrençaient dans leur discipline dans le but de monter sur le podium et de décrocher une médaille d'or, d'argent ou de bronze. Pour éviter toute concurrence avec le volet sportif, tout en bénéficiant de l'effet locomotive, l'événement artistique se déroulerait durant les 10 jours qui séparent la fin des Jeux olympiques et le début des Jeux paralympiques. On prévoit que les Jeux des arts auront lieu tous les 2 ans, mais ne se dérouleront pas dans la même ville hôtesse que les Jeux olympiques, pour éviter d'alourdir l'organisation d'un événement jugé déjà complexe et coûteux. Les Jeux des arts espèrent générer autant d'attention planétaire que les Jeux olympiques, une ambition qui fait saliver Montréal. Denis Coderre a déposé auprès de l'organisation une lettre d'intérêt le 24 mars dernier pour organiser les premiers Jeux des arts en 2018. Pour favoriser la candidature de sa ville, le maire de la métropole a souligné que Montréal était l'une des rares villes à avoir organisé tant une exposition universelle que des Jeux olympiques, respectivement en 1967 et 1976. Montréal estime que cet événement pourrait entraîner d'importantes retombées puisque la compétition comporte également une phase d'audition se déroulant 6 mois avant les Jeux pour permettre à de nombreux participants de se faire valoir. 5 villes sont aujourd'hui sur les rangs pour accueillir les Jeux des arts de 2018. Outre Montréal, les villes canadiennes de Toronto, Windsor et Markham, ainsi que Détroit aux États-Unis, ont manifesté leur intérêt. La métropole québécoise estime toutefois être en bonne position de décrocher l'événement et dit qu'elle cherche déjà à conclure une entente. L'administration Coderre compte soumettre cet accord pour approbation aux élus montréalais en août prochain. La chronique de Sophie Durocher dans le Journal de Montréal est titrée « RBO et les méchantes publicités ». Vous pensez encore qu'on ne vit pas une époque frileuse de censure et de rectitude politique? Regardez la série RBO 3.0 qui CRTV rediffuse ce soir à 19h30. Vous constaterez que 99% des parodies de pubs que faisait Rock et Belles Oreilles à l'époque ne pourraient jamais être diffusées aujourd'hui. La crème pour la noun qui pique Vagisil? Trop vulgaire! Les dildos Momo, trop cochon. L'épicier métro qui se sert de l'épérimé pour faire du yogourt, il y aurait une poursuite en diffamation. Et si en 2015, un groupe de jeunes humoristes présentait un sketch comme la famille Slow-Mo se moque de Swiss Night, la fondue suisse pour les croutons, l'association de défense des croutons monterait aux barricades. Ici, RTV rediffuse RBO 3.0, une série de 9 épisodes sur les différentes thématiques abordées par RBO au cours de leur carrière. Guilla Lepage, André Ducharme et Yves Pelletier et Bruno Landry seront sur scène ce soir et demain au Centre Bell, puis à Québec pour l'ouverture du Centre Vidéotron le 19 septembre. C'est l'occasion de rappeler qu'en 30 ans, l'humour est devenu moins grinçant et beaucoup moins bête et méchant. L'épisode de ce soir sur le thème de la publicité est passionnant. Bruno Landry affirme qu'à l'époque de RBO, il était convaincu que les annonces niaiseuses et mal faites allaient disparaître, que le monde de la publicité allait évoluer et que 30 ans plus tard, il n'y aurait plus matière à parodier. Or, que s'est-il passé? On a autant, si ce n'est plus, de publicités niaiseuses et mal faites qu'à l'époque. On pensait que les publicités faites à Toronto ou aux États-Unis et mal doublées disparaîtraient. Or, en pitonnant d'un poste à l'autre, on peut en trouver facilement sur nos ondes en 2015. Des publicités affligeantes, des annonces où le propriétaire sans charisme vend ses produits à l'écran. Il y en avait à l'époque de Cuir Dimitri et de Daniel Spécialité, mais 30 ans plus tard, il y en a encore. Le constat de RBO est assez désolant. En regardant les pubs risibles d'il y a 30 ans, qui mériteraient d'être parodiées par un groupe d'humoristes, on se dit que les pubs d'aujourd'hui ne sont pas beaucoup mieux. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de RBO pour s'en moquer. On l'a peut-être oublié, mais la bande de RBO n'a pas fait que se moquer de la pub. Ils en ont aussi fait eux-mêmes pour la gomme Chiclets et pour Petro-Canada. Dans la série RBO 3.0, l'animateur Stéphane Bureau leur demande d'ailleurs pourquoi ils ont cédé à la tentation commerciale. Voici ce qu'a répondu Guy Lepage. Mine de rien, RBO commençait à être populaire, mais on ne gagnait pas beaucoup d'argent. On était 5 dans le groupe, on avait un gérant, on avait besoin d'argent, on avait besoin de gagner notre vie. Il y a tellement d'artistes qui font de la pub en se pinçant le nez et qui veulent nous faire croire qu'ils le font pour des raisons créativo-philosophiques. Au moins, les gars d'RBO admettent que c'était purement alimentaire. Ça a le mérite d'être clair. Dans la presse, Caroline Rogers nous parle de l'année Chopin avec Charles-Richard Hamelin. Charles-Richard Hamelin se démarque de plus en plus dans le monde compétitif et ingrat du piano. Pour le pianiste de 26 ans, l'année en cours est celle de Chopin, avec de nombreux récitals, un premier disque et surtout une participation au redoutable concours Chopin de Varsovie en octobre. Il est en récital ce soir au domaine Forget et dimanche au Festival de musique de la Chine. Jusqu'à maintenant, on peut dire que Charles-Richard Hamelin a connu un parcours exemplaire, parsemé de prix et de bourses, mais surtout d'énormément de travail. Car le talent ne suffit pas, il faut s'exercer. De 4 à 7 heures par jour, dans son cas. J'aime tellement ça que c'est un plaisir, dit-il. Et comme je fais énormément de Chopin cette année, c'est toujours beau comme musique, alors je n'ai pas de difficulté à rester motivé. J'ai tellement de choses à apprendre, l'important est de gérer son temps et de pratiquer efficacement. Comme si cela n'était pas suffisant, il se prépare pour un autre concours en novembre au Japon. Et son premier album, entièrement consacré à Chopin, a été enregistré au printemps à la salle François Bernier du domaine Forget par la maison Analecta. Il sortira en septembre. « J'ai eu carte blanche, dit-il. Le style tardif de Chopin me rejoint particulièrement. Il est au sommet de son art, bien qu'il manque à ses œuvres un peu de la brillance et de la fougue de la jeunesse. Pour un interprète, cela demande une réflexion incroyable à chaque note. Tout est sophistiqué. Il y a une ingéniosité dans le contrepoint et l'harmonie qui demande à un pianiste de faire des sacrifices, car il est important de souligner tout ce qui se passe. Pour moi, sa troisième sonate que j'ai enregistrée est la plus grande sonate romantique. »
Like this, rulers one.
Amy Winehouse avec Me and Mr. Jones. Et justement, dans le cahier week-end du Devoir, Manon Dumais revient sur le documentaire qui s'intitule Amy. L'article s'appelle « Mourir à tue-tête ». En mars 2013, moins de 2 ans après sa mort, le FIFA présentait Amy Winehouse, c'est les films sur l'art, là, c'est pas le FIFA, le football, présentait Amy Winehouse, The Day She Came to Dingle, de Maurice Linnan, captation scénique d'une prestation donnée en 2006 dans un bled du fond de l'Irlande, entrecoupée de propos de la chanteuse. Le regard candide, le sourire lumineux, Amy Winehouse y parlait avec un enthousiasme contagieux de sa passion pour le jazz, le R&B et le hip-hop. Lancé à Cannes plus tôt cette année, le documentaire d'Asif Kapadia, à qui l'on doit aussi Senna, fait revivre cette Amy-là. Richement documenté grâce à la générosité de la famille Winehouse, laquelle a déchanté assez tôt en constatant l'image négative que le film pouvait véhiculer d'elle, Amy, sa mère, s'avère un émouvant requiem pour une jeune fille prodige qui aimait s'éclater. Fort d'un montage solide et d'un rythme trépidant, lesquels font écho au tourbillon vertigineux que fut la trop brève existence de celle que son idole Tony Bennett comparait à juste raison à Billie Holiday et à Ella Fitzgerald, le documentaire d'Asif Kapadia reconstruit patiemment le parcours artistique de Winehouse à partir d'extraits d'entrevues et de spectacles de la chanteuse. S'appuyant également sur les témoignages de son entourage, dont ses amis d'enfance, Juliette et Lauren, dont les propos empreints d'émotion traduisent leur impuissance face à la déchéance de Winehouse, Amy navigue savamment entre la géographie, la chronique People Trash et le déboulonnage de statues. Certes, plus le film avance, plus on ressent un malaise à revoir la silhouette décharnée de la chanteuse, son regard éteint, son maquillage dégoulinant, image pathétique moquée par les médias. Certes, Mitch Winehouse, qui a offert sa fille en pâture à la presse alors qu'elle tentait de remonter la pente, et son ex-mari, Blake Fielder, qui, ironiquement, lui inspira son magnifique second album « Back to Black », font très mauvaise figure, comme si le réalisme voulait absolument trouver un coupable. Comme si le réalisateur, c'est un drôle de lapsus, voulait absolument trouver un coupable. Alors que la sublime voix de la ténébreuse diva se fait entendre durant le générique de fin de film, Amy se révèle un précieux hommage à travers lequel Kapadia nous pousse à nous interroger sur la fragilité de l'être humain. Dans la Tribune de Sherbrooke, un article de Gabriel Roy, les traditions sous toutes leurs formes. De la musique, des danses, des produits artisanaux, des mets typiques, le tout provenant d'une multitude de pays étrangers, bienvenue au Mondial des cultures de Drummondville. On vient ici pendant 10 jours et après, on n'a plus besoin de voyager parce que la musique, la danse, les costumes et tout le reste nous transportent partout dans le monde, assure Marie Noël, une visiteuse de Victoriaville. Hier, dans le cadre de la première journée officielle du Mondial des cultures de Drummondville, le parc Wood Hyatt était bondé de cultures diverses, de milliers de personnes et surtout d'ambiance. Cette année, le Mondial s'est donné comme nouvelle mission de présenter les diverses facettes des traditions internationales. Nous avons donné un caractère international et un aspect de découverte très intéressant à la 34e édition, a expliqué le directeur Charles Guillemette. Tout est vraiment bien cette année, dit un participant. C'est très bien installé et on peut voir la scène peu importe où on se trouve, ce qui n'était pas le cas avant. La scène se trouvant sur la Piazza, qui est en fait une place piétonnière digne de celle qu'on retrouve aux quatre coins de l'Europe, est le centre d'attention. Tout autour, un circuit de kiosques de produits et de nourriture venant de tous les coins du monde rassemble petits et grands. Perles d'Afrique, produits de l'érable, tipis autochtones, la liste de découvertes est à n'en plus finir. Produits d'ici ou d'ailleurs, ils ont tous fait fureur hier. Je viens de la Russie et j'adore venir ici chaque année pour les kiosques et les artisans russes. J'ai été adoptée lorsque j'avais 6 mois, donc c'est une belle façon de découvrir ma culture, lance Catherine Routier. Hier soir, les spectateurs ont eu droit à des prestations provenant des États-Unis, de la Slovaquie, du Mexique, de la Pologne, de l'Espagne, de la Colombie ainsi que de l'Inde. Les richesses culturelles des différents pays ont su capter l'attention des milliers de personnes présentes. C'est ma première participation au Mondial et je suis très impressionnée du nombre de personnes présentes ce soir, dit une des artisanes située devant la scène principale, Marjolaine Gagnon. Son artisan voisin, Normand Boutillette, aimait quant à lui l'aspect familial de la fête. Je trouve que c'est un super beau mélange de cultures qui permet aux plus petits autant qu'aux plus grands de faire des découvertes. La soirée s'est terminée avec un spectacle de feux d'artifice au parc et le Mondial des cultures se poursuit jusqu'au 19 juillet. Le prix de la Socan décerné à Antoine Corriveau. C'est Antoine Corriveau, avec le nouveau vocabulaire, qui a remporté le prix de la chanson Socan 2015 à la faveur d'un vote du public. La distinction s'accompagne d'une bourse de 10 000 $ à l'auteur-compositeur-interprète qui lançait l'an dernier l'album Les Ombres longues, renfermant 10 pièces aux accents folk et rock. Il mérite aussi une guitare acoustique, un clavier, une carte cadeau de 500 $ de Long & McQuaid, 20 heures de temps studio avec Timothy Abraham et 6 heures de coaching vocal avec Amanda Mabrou. Le Journal de Montréal nous apprend aussi que Michel Rivard et Bobby Basini seront au FestiBlues. Ils se joignent ainsi à Alex Nevsky et Lisa Leblanc, dont la participation avait déjà été annoncée en vue de la 18e édition du FestiBlues international de Montréal, qui se tiendra du 6 au 9 août dans l'arrondissement Hantsic. Alors voilà, ça faisait le tour des nouvelles pour ce 10 juillet 2015. Lundi, Clotilde sera de retour avec vous. Et là, je cède l'antenne à Kevin Breton, parce que j'ai eu peur de t'appeler parent. C'est un lapsus fréquent ici, hein? On le sait. Alors, à Kevin Breton pour le bulletin du handicap.